ce terme a un dérivé qui s'utilise dans un sens péjoratif, négatif et positif. On a dit Allah Badir As-Sama wa Ta'ala, c'est pas négatif. C'est une éloge concernant Allah subhanahu wa ta'ala, al-mubdi' subhanahu wa ta'ala, l'innovateur. Donc, l'imam Zarkashi, l'éminent Zarkashi, rahimahullah, savant connu de Coran, mais en même temps science du Coran, surtout son livre avec Ulum al-Quran, il dit en définition al-bid'a, il dit dans la langue arabe, c'est lorsque vous mettez en exergue une action qui n'existait pas et vous en faites une règle de conduite, c'est-à-dire que vous en faites une sunna suivie. Je reviens au sens littéral de sunna. Quelque chose qui n'existait pas et vous allez l'établir comme une règle de conduite permanente. Alors on dit bid'a. Et elle peut être utilisée pour désigner quelque chose de louable ou de mauvais. On peut, et la preuve, il dit, lorsqu'on veut désigner quelqu'un qui excelle dans ce qu'il fait, on dit « fulan bid'a ». Que veut dire « bid'a » dans la langue arabe? C'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas vu quelqu'un comme lui, dans la maîtrise de son art. Alors dans la langue arabe, ça se dit. Si c'est quelqu'un qui est un informaticien, un mathématicien, je ne sais pas moi, dans quel domaine, n'importe quel domaine du savoir ou de l'exercice, s'il est phénoménal dans son action, on dit « hada bid'a ». On n'a pas vu comme lui. Et c'est louable ici. Donc je parle ici du point de vue langue arabe, que ce terme s'utilise donc dans les deux sens. Du point de vue maintenant conventionnel, la bid'a, c'est tout acte qui s'oppose à la sunna. Tout acte qui s'oppose. J'aimerais bien que vous signiez le mot opposé. Parce que rappelez-vous, j'ai cité au début, dans l'introduction, par provocation et introduction d'avance, j'ai dit à Rasoul Salam, il a cité le hadith que vous connaissez, « Man sanna sunnatan hasanatan fil islam » Celui qui met sur pied une règle de conduite bonne dans l'islam, Dieu va lui accorder la récompense de cet acte, de cette sunna, et la récompense de ceux qui vont la mettre en exécution, sans pour autant diminuer de leur récompense. Ça veut dire quoi? Si j'enlève le mot sunna et je vais mettre « bid'a », celui qui va mettre une bonne bid'a dans l'islam, c'est ce que ça veut dire le hadith de Rasoul Sallam, il aura la récompense de cette bonne bid'a et la récompense de ceux qui vont la mettre en pratique jusqu'à l'avènement du Médiane, sans que Dieu diminue dans leur récompense en rien. C'est pour ça ici, l'imam al-Jurjani, rahimahullah, dans son livre Ta'rifat, et donc il donne cette définition, il dit « Tukhalifu sunna », elle va s'opposer à la sunna. C'est ça qu'on appelle bid'a. Si elle ne s'oppose pas à la sunna, si on lit ce qu'il dit, donc elle n'est pas bid'a. C'est ce que veut dire l'imam al-Jurjani. En deux mots, l'imam Abdelkar al-Jurjani, livre Ta'rifat, mais Abdelkar al-Jurjani était un des spécialistes de notre umma dans l'i'jaz al-Qur'ani, dans l'aspect miraculeux du Coran. Son livre est un, parmi d'autres, des livres références, si vous voulez comprendre la dimension miraculeuse, défiante du style du Coran. Parce que le Coran, il est avant tout défiant par son style, avant de parler d'autre chose. Dieu a défié Quraysh et toute génération qu'il compose un Coran pareil. Quelques versets, ou une sourate, ou quelques sourates pareil. Donc, et c'est pour ça que les premières générations se sont attelées avant tout à montrer le janib al-ijazi fil bayan al-Qur'ani, dans cette éloquence coranique. Abu Bakr ibn al-Arabi, vous avez Ibn Arabi et Ibn al-Arabi. Moi je parle ici de Ibn al-Arabi, l'exégète, sahib al-Ahkam al-Qur'an. Je ne parle pas de Ibn Arabi, le mystique sahib al-Futuhat al-Mekkiya, dont moi je ne partage pas les convictions, ni la lecture. Donc je parle ici de Bakr ibn al-Arabi, il dit, ce qui est dénigré dans l'innovation, c'est son opposition à la sunna. Et c'est pour cela, c'est un acte d'égarement. Donc ils donnent la même position, ils n'ont pas vécu dans les mêmes endroits, ils ne sont pas de la même génération, et chacun donne une définition. Donc Ibn al-Arabi, il dit, donc, al-bid'a, qui est sujet de dénigrement, de critique, c'est celle qui s'oppose à la sunna, et qui appelle vers quoi? Vers Valala, vers l'égarement. Donc ça c'est pour ce qui est d'Ibn al-Arabi. L'imam al-Shatibi, rahimahullah, il a dit, al-bid'a, c'est une conduite inventée par laquelle on veut lui donner une légitimité légale. Donc il y a tariqa, il dit ici, muhtara'a, elle ne trouve pas aucune racine dans l'islam. Et par laquelle on veut quoi? Elle va concurrencer même la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On élimine celle-là et on la met elle. Donc, elle a deux qualificatifs. Mukhtara'atun tudahi. Elle veut concurrencer shar'iyya. Tout ce qui est légal. Donc, c'est dans l'Atisam, le tome 1, la page 37. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, al-bid'a a pour origine l'innovation, son modèle précédent. Et elle est citée dans la religion à l'opposé de la sunna. Donc, il s'agit de quelque chose de dénigré et de rejeté légalement. Donc, vous voyez, les savants tous, on revient, on trouve les mêmes éléments dans la définition. C'est quelque chose de nouveau, son modèle précédent. Elle se met en opposition avec la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle n'est pas louable. Parce qu'elle était louable, il pouvait le retrouver injustificatif. Mais elle est sujet de dénigrement. Ce que je viens de vous donner, c'est dans Fath al-Bari. Le commentaire de l'imam al-Bukhari, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le tome 4, à la page 298. Donc je vous ai donné ici quelques définitions, je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai encore la définition de l'imam Taftazani et d'autres, mais je me limite à ces définitions. Alors, comment est-ce que les savants ont lu cette bid'a maintenant? J'ai donné la définition, comment est-ce qu'ils vont la considérer? Alors je vous donne une première position. Certains ont dit la bid'a c'est tout ce qui n'existait pas à l'époque des compagnons et de leurs prédécesseurs, et qui vient s'opposer à ce qui est sujet d'unanimité entre eux, consensus, entre sahaba et tabi'in. Qu'il s'agisse de quelque chose comme un acte ou une parole ou une approbation. Ça c'est un sujet de consensus entre les compagnons de leur tabi'in. Acte, parole ou approbation. Eux, ils vont se mettre d'accord sur quelque chose qu'ils ont hérité de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il ajoute, il dit, ce groupe rajoute encore même ce qui était transmis d'après les compagnons et les tabi'in, et sur lequel ils ont divergé. Pourquoi? Parce que même lorsque les compagnons et les tabi'in divergent, leur avis a priorité sur tout nouveau avis. Nous avons une question sur laquelle les compagnons se sont prononcés, ils ont divergé, les tabi'in ils ont divergé. Et bien, malgré qu'ils ont divergé, priorité à leur dire à eux, ou à leur position, ou à leur action à eux. Parce que c'est la meilleure des générations. Ce sont les meilleures des générations. Et bien, si vous venez et vous rejetez avis ou acte ou approbation divergent des compagnons ou des tabi'in, vous avez innové. Le premier avis, toujours du même groupe, tout avis, parole ou action, ou approbation sur lequel il y a unanimité entre les compagnons ou la génération qui les suivent, et vous venez, vous le délaissez, et vous dites, voilà, j'ai une nouvelle proposition, et bien vous êtes un innovateur. Donc, ils ont limité à ça. Ça va? Donc, soit acte, approbation aux paroles, sujet d'unanimité, ou sujet de divergence, parce que même en cas de divergence, ils ont priorité parce que c'était les meilleurs des générations. Ça, c'est une première tendance. Donc, ce n'est pas la définition unique de la bid'a. Deuxième définition dans notre groupe. Ils disent, al-bid'a, c'est toute chose qui est nouvelle et il n'y a pas un avis. Donc, cet avis, c'est-à-dire toute chose nouvelle, et elle ne se base pas sur un avis fondé dans l'islam. C'est-à-dire, un juriste, un savant, propose quelque chose de nouveau dans le domaine du religieux. Je ne parle pas ici maintenant de l'aqida et tout. Hein. Nous avons vu quelle était la position des premières générations. Et cette question, elle trouve en vérité ses sources quelque part. C'est ce qu'on appelle fiqh al-khilaf. Si elle trouve ses sources, il dit elle n'est pas bid'a. Si elle trouve pas source, elle ne trouve pas source, alors elle est innovation. Ça, c'est un deuxième avis. Donc, il n'a pas parlé de la génération des compagnons, ni de leur consensus ou divergence qui ont priorité. Non, il dit tout avis qui ne trouve pas source dans la science des divergences. C'est-à-dire, le savant, celui qui se prononce, n'a pas un justificatif légal, l'ulum shari'a. Eh bien, alors à ce moment-là, on dit ce qu'il dit, ce qu'on propose est une innovation. Dans le cas contraire, ce n'est pas une innovation. Donc c'est l'imam Qurtubi qui rapporte ça, dans son livre « Al-Jam' al-Ihkam al-Qur'an ». Vous avez une autre position qui dit que donc cette bid'a, en vérité, c'est celle, on va dire ce que dit Ibn al-Qur'an, je vais vous donner ce que dit Ibn al-Hazm. C'est tout ce qui a été dit ou fait et qui n'a pas de référence, soit coranique, soit prophétique, qui le justifie. Qu'est-ce que ça veut dire référence coranique prophétique? C'est-à-dire, on n'utilise pas un verset ou un hadith pour appuyer ce qu'on dit. Alors, comme je vous ai dit, le Coran ou le hadith nécessite compréhension et explication. C'est ça ce qu'on appelle le ta'sil al-shar'i. Le ta'sil al-shar'i, c'est lorsque vous prenez une position et vous dites, et mon avis que je vous propose, il est basé pas uniquement en citant les versets. On peut citer les versets, mais vous pouvez le citer et alors qu'il est hors contexte, le verset, il ne s'applique pas à ce que vous dites. Non, vous dites le verset suivant, et voilà comment on a expliqué le verset. Et c'est ça qui justifie que je dis tel est mon avis. C'est clair? Donc, je répète. Al-Bid'a, toute chose nouvelle, nous avons vu. Et ils mettent en évidence que ça devient comme une sorte de sunna, conduite, permanence, et qui s'oppose à la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est pas louable. Ça, c'est la définition de base. Puis nous avons vu qu'un groupe définit la bid'a comme étant quelque chose qui s'oppose à un consensus des compagnons, des tabi'in, de leur tabi'in, ou qui s'oppose même à une divergence parce qu'ils ont priorité. S'oppose. Mais la sunna, c'est clair. Hein? Si elle s'oppose à la sunna, c'est clair. C'est une bid'a, on n'en parle pas. Deuxième avis qui dit toute chose qui diverge, mais qui ne trouve pas justificatif dans la science du khilaf. Et lorsque dit science du khilaf, des sciences des divergences, c'est-à-dire il y a des outils légaux qui permettent de justifier telle position, telle position. Mais là, on ne trouve pas de justificatif. Ça va? Nous avons vu l'autre définition qui dit que la bid'a comme Ibn Hazm, il dit tout ce qui a été dit, ce qui est fait, mais qui n'a pas, il n'a pas pied. Il ne prend pas racine. Asl. Il ne prend pas racine sur ce qui était rapporté. D'après le Coran ou Sunna ou d'après la religion. C'est-à-dire, tout ce qui n'a pas référence ni dans le Coran ni dans la Sunna de Rasulallah, que lorsque l'individu le fasse, il sera récompensé, et s'il le délaisse, il sera sanctionné. Ici, c'est un rajout que je vous donne maintenant, je l'explique. Il dit référence coranique au Sunna, et donc vous devez citer le hadith ou le verset ou le hadith, mais aussi donner son explication juste, qui s'adapte, qui s'applique à ce que vous dites et qui est nouveau. Ça, c'est une. Deux. Après, il rajoute autre chose. Il dit, mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'esprit du Coran, l'esprit de la sunna, qu'on appelle l'esprit de la sharia, ruh al-sharia. D'une autre manière, on appelle ça aussi maqasad al-sharia, les buts de la loi. Eh bien, vous pouvez, si vous êtes un savant, un érudit, vous prononcez, et ce que vous dites, il trouve ses racines dans l'esprit de la loi de Dieu. Ça, c'est pas moi qui va faire ça, ni vous, c'est-à-dire les vrais savants. Eh bien, si l'esprit de la loi juge cet acte louable, hassan, fil islam, même s'il est nouveau, il est hassan. C'est-à-dire, même si les compagnons ne l'ont pas fait, même si le prophète ne l'a pas fait. Puisqu'il a son justificatif dans ruh al-sharia, je m'explique d'une autre manière. Qala Rasulullah sallam, ce que les savants musulmans jugent bon, il est auprès de Dieu bon. On utilise ce hadith de Rasulullah pour légitimer ce qu'on appelle l'istihsan. L'istihsan, c'est un principe sur lequel se basent les savants musulmans pour considérer quelque chose de bien, même s'il n'y a pas un texte qui l'appuie. Mais les savants musulmans ont déterminé qu'elle est bonne d'après leur connaissance et compréhension approfondie de la loi de Dieu et de sa visée qu'elle cherche le bien pour les gens. Et ça, ce n'est pas moi, c'est les érudits qui ont le droit de faire cet acte. Donc, on appelle ça l'istihsan, l'appréciation de l'érudit. Cette appréciation de l'érudit, elle intervient pour même aller à, parfois contre un texte. Pas évident, hein, contre, c'est-à-dire une déduction faite d'un texte. Je m'explique, et c'est pour ça que je vous dis la première fois, je vais parler en termes de usul. Ce n'est pas de l'exhortation que je fais. Ça nécessite de votre part un peu de concentration. Lorsque vous regardez un peu l'esprit des contrats en islam, de vente et d'achat, pour qu'un contrat soit valide en islam, vous devez être deux contractants, libres, sains d'esprit, capables de signer un contrat. L'objet du contrat doit être présent, ce verre. Le prix doit être défini. Ce produit doit être livrable. Nous sommes d'accord? Et qu'il y a consentement mutuel. Mais ce qui m'importe ici dans ce que je viens de dire, c'est que le prix il est défini et, le produit est défini. Ça veut dire si un jour vous allez, vous êtes obligé d'aller prendre une douche, on n'appelle pas de douche chez vous, public, vous allez au hammam, bien sûr selon les conditions musulmanes, avec Izal, etc. Si on applique la règle que je viens de dire ici, vous devez payer le prix de l'eau que vous allez consommer. On doit mettre un compteur dans la main de chaque individu qui rentre au hammam ou dans la douche. Et on doit déterminer le temps que vous restez. Vous entrez au hammam à 8 h, vous sortez à 9 h, par exemple. Dans nos pays, où les gens n'ont pas de hammam, ni de douche chez eux, ils sont obligés d'aller au hammam, sinon ils meurent, surtout en hiver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, il est rentré à 8 h, on lui a dit, sort à 8 h 30? Les gens partent parfois, ils restent 5 h dans le hammam. Je ne sais pas combien consomment de litres d'eau. Eh bien, cette transaction, est-ce qu'elle est conforme au contrat islamique? Non, elle n'est pas conforme. Parce que la quantité n'est pas définie, ni le prix. Ce que vous consommez. Mais nos savants sont unanimes à permettre ce contrat. Comment? En suivant la règle de l'istihsan, de l'appréciation. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est difficile. Et nous allons rendre la vie difficile, amère à celui qui offre le service et à celui qui va jouir du service. Donc par appréciation, ils ont donné un avis qui est non conforme à l'analogie musulmane, al-qiyas. Istihsan had, istihsanuhu. Et le prophète a dit, ce que les savants musulmans considèrent bon, eh bien il est bon en islam. Parce qu'ils ne l'ont pas fait par passion, mais par intérêt. Pour la communauté, la Ummah. Donc ici, cet avis que je viens de dire ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si cette appréciation de cet acte nouveau trouve ses racines dans l'esprit de l'islam, et qu'il est jugé louable, Hassan, eh bien, il n'est pas considéré bid'a. Ça, c'est un autre avis. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ces trois avis? Entre autres, parce que sinon on va rester jusqu'à demain matin ici. Pourquoi je vous ai donné ça? C'est pour vous expliquer que la définition de la bid'a n'est pas unique chez tous les savants des musulmans, chez tous les juridis, mais elle est unique à quel niveau? Lorsqu'elle s'oppose à la sunna de Rasulullah sallam, ça tout le monde est d'accord. Lorsqu'elle s'oppose à un texte légal, tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de nouveau, qui, on va dire, un rajoute, mais c'est ça ce qu'on appelle bid'a, un rajout, un nouveau, mais qui trouve ses racines dans les divergences, et ses preuves d'argumentation, ou qui est expliqué par l'esprit de l'islam, vous avez un avis qui dit autre chose. Vous avez un avis qui dit, on ne peut pas du tout accepter aucune chose nouvelle dans l'islam que ce qu'il y a dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été transmise. Voilà, vous avez les différentes tendances. Mais sachez-le clairement, qu'il n'y a pas de tendance unique. Et je me suis référé exprès à l'imam Shatibi, qui est considéré l'un des plus fermes dans la définition de la bid'a. Et son livre, l'Atisam, est une référence pour tous les spécialistes. Pour vous dire, n'allez pas à la besogne. Et directement, vous commencez à traiter tout individu qui fait quelque chose, qui est bid'a. Si cet individu fait quelque chose, et il se réfère à un érudit qui est digne de ce nom, et cet érudit justifie ce qu'il propose dans la pratique religieuse, à partir de l'argumentation juridique légalement admise, vous ne pouvez pas l'exclure et le traiter d'innovateur. Ça, c'est la position qui est la plus conforme à la méthodologie des sciences islamiques, que je vous ai proposée ici, vraiment en condensé. Ce que je viens de vous donner ici, c'est la position donc d'Ibn Hazm. Abu Bakr ibn al-Arabi dit la même chose, et l'imam Nawawi dans son commentaire sur l'imam musulman dit la même chose. L'imam Nawawi sur son commentaire de Muslim, puisque comme vous le savez, il a fait le sharh de l'imam Muslim, l'imam al-Nawawi, il dit la même chose. Et en plus, l'imam al-Izz ibn Abd al-Salam, qu'on appelait dans le temps Sultan al-Ulama, va dans la même définition. Et en même temps, l'imam al-Qarafi dit la même chose, 6e, 7e siècle de l'Égypte. Ils vont tous dans cette définition que je vous ai donnée. Donc j'ai cité Ibn al-Arabi, j'ai cité le Qurtubi, j'ai cité Ibn Hazm, j'ai cité l'imam Shatibi, j'ai cité l'imam l'Azab Abdussalam, j'ai cité l'imam al-Qarafi, j'ai cité Ibn Hajar al-Asqalani. Tous ils vont dans ce sens que je vous ai donné pour dire qu'il y a une multiplication des définitions, mais tous ils s'accordent lorsque cette bid'a, cet acte, parole, approbation nouvelle s'oppose à la sunna, elle est alors considérée interdite. Mais quand ils vont être fermes à l'interdire, lorsqu'elle est quoi? Elle t'adou ila dhalal, elle appelle vers l'égarement et elle est considérée mauvaise. C'est clair? Voilà pour ce qui est, et je vous ai dit, voilà la vie qui revient sans arrêt. La bid'a, pour conclure, inshallah, et après j'entrerai dans les débats à la question d'actualité. Al-Azm ibn al-Adislam, il a dit, rahimullah, la bid'a se subdivise en bid'a obligatoire. Il dit, il y a des bid'a qui sont obligatoires, c'est-à-dire à mettre en pratique. Et il y a des bid'a recommandées. Il y a une bid'a répréhensible. Il y a une bid'a permise. Et il y a une bid'a interdite. C'est comme la sunna. Comme la sunna, ça applique les cinq, comme je vous ai dit tout à l'heure, les sentences légales. Il dit après, et le moyen pour connaître al-bida, si elles sont obligatoires à prendre en considération ou interdites, c'est de les mettre à l'analyse à la lumière de la loi de Dieu. Nadawha tahta dhaw al-shari'a. Al-shari'a, c'est un mot qui est vaste, hein. Faites attention, parce qu'il y a aussi des gens qui ont une définition très restreinte du terme shari'a. Al-shari'a, ce n'est pas le code pénal. Hein. Al-Sharia, c'est l'ensemble des sentences légales se rapportant au dogme, à la morale, et au relationnel et au culturel. C'est-à-dire l'islam, dans sa globalité. C'est ça, Sharia. Et les sources de Sharia sont quoi? Sont le Coran, le Sunna, l'Ijma' ou le Qiyas, sur lesquels il y a unanimité. Et puis, il y a des sources sur lesquelles il y a des désaccords, c'est-à-dire al-maslah al-mursala, al-istihsan, al-urf, al-shar'u man kana qablana, al-sadd al-dhara'. Ça, ce sont des sources de divergence. Mais les quatre sources-là, ce sont des sources d'accord entre tous les savants musulmans. On regarde dans le Coran, on ne trouve pas dans le Coran, on regarde dans la Sunna, on ne trouve pas, on va voir l'ijma. L'ijma, on ne trouve pas dans l'ijma, l'érudit va faire le travail de qiyas. C'est l'érudit, le mujtahid, qui fait le qiyas. Ça va? Donc, il dit, on la met à la lumière des règles de la loi. Si elle rentre, cette bid'a, sous l'une des règles de la loi, alors elle va être soit obligatoire, ou soit elle va être interdite, ou soit elle va être recommandée, soit, ça dépend de la règle sur laquelle va s'insérer, que le spécialiste va faire, le alim. Donc, il y a des bid'a qui sont obligatoires, il y a des bid'a qui sont interdites, il y a des bid'a qui sont recommandées. Des bidas qui sont répréhensibles, des bidas qui sont permises. Tafal ma tafal, si tu es libre. Donc c'est ainsi que ça doit fonctionner. Et donc ça, ce qui dit ça, c'est l'Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah. Alors, exemple de bidas obligatoire. Il dit les compagnons n'ont pas inventé des sciences de la langue. Ils comprenaient le Coran selon leur nature. C'était des Arabes purs. Ils n'avaient pas besoin de codification ni du lexique, ni de la grammaire, ni de la conjugaison, ni d'apprendre ilm al-ma'an, ni la science des idées, ni rien du tout. Eh bien, il dit, c'est devenu obligatoire d'inventer cette science. Wajib an-nabtadi'a, et que vous devenez linguiste. Ce n'est pas une perte de temps que les musulmans deviennent des grammairiens. S'il n'y avait pas les grammairiens, le Coran raumcha. C'est devenu obligatoire. Donc, il y a des frères, ils disent, oui, je veux apprendre les sciences islamiques. Pourquoi que c'est lui, les sciences islamiques, c'est quoi? C'est, il va apprendre le Coran, le Sunna, le Hadith. Et les autres sciences. Qui vous a dit que ce n'est pas obligatoire? Être un bon musulman, c'est ne pas étudier les sciences profanes. Qui a dit ça? Être un bon musulman, c'est maîtriser les sciences profanes pour comprendre les textes. Tu n'as pas les sciences profanes, tu ne comprends pas le texte. Il faut les outils. Et donc, Voilà, donc il dit ilm an-nahw. C'est devenu obligatoire. Parce qu'on part du principe, il y a une règle chez les savants musulmans. Ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajibun. L'élément qui est nécessaire pour comprendre la chose et mettre en exécution l'obligatoire, eh bien, elle a le statut de l'obligatoire. Tout ce qui vous permet d'exécuter l'obligatoire, il a le statut de l'obligatoire. Et donc, voilà, il dit, par exemple, la même chose, il dit, la science de usul fiqh, c'est une innovation, mais elle est obligatoire, parce que c'est une des conditions pour être érudit, que tu maîtrises ilm usul fiqh. Tu ne peux pas être mujtahid sans ilm usul fiqh. Tu ne peux pas. Il veut devenir mufassal al-Qur'an et ne connaît pas le nasr al-mansour, l'abrogeant et l'abrogé. C'est une catastrophe. Il veut expliquer le Coran, il ne connaît pas nahw sarf. C'est une catastrophe. Comment est-ce qu'il va expliquer le Coran s'il ne maîtrise pas la langue et les règles? Et donc, il dit, par exemple, on a inventé la science du usul fiqh, c'est une obligatoire. Parmi les bid'ah interdites, il dit, par exemple, la bid'ah d'il jabrit, madhab al-jabriya. Madhab al-jabriya, ils ont inventé, et alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé les sciences de la théologie scolastique, ilm al-kalam, c'est pas obligatoire. Que tu connais la science de la controverse théologique. C'est pour ça qu'on voit Salaf al-Salih en dénigrer cette science. Parce qu'elle ouvre la porte vers des domaines où on commence à philosopher en tout. Si vous voulez comprendre le qadar al-qadar d'une manière philosophique, vous allez devenir être athée, vous allez devenir mécréant. Parce que le qadar al-qadar est une question avant tout de foi, avant qu'elle soit une question rationnelle. Avant tout, c'est une question d'iman. Donc, parmi les bid'a mandouba recommandés, c'est ce que les musulmans ont inventé, c'est la construction des ribat, les fortifications tout le long de toutes les côtes musulmanes. Et alors, qu'est-ce que les gens faisaient dans les ribat? Ils venaient faire tenir garnison pour protéger les côtes musulmanes, volontaires, mais en même temps, ils passaient leur nuit à prier Dieu, à faire des veillées. Qira'at al-Qur'an wa salat tahajjud. C'est une recommandation pour protéger parce que la garnison officielle n'était pas suffisante pour protéger toutes les côtes musulmanes. Il faut que les musulmans y viennent. Alors, on a fait les constructions et on a insisté à travers du hadith Rasulullah wa aynun bat tahrasu fi sabilillah, parmi les yeux qui sont préservés du feu de l'enfer, un œil qui a passé la nuit à veiller les musulmans. Alors, ils venaient veiller les musulmans, mais veiller aussi en spiritualité, en acte d'adoration, qira'at al-Qur'an ou as-salat. Mais c'est une bid'a, innovation. Donc les ribat, c'est quelque chose de bien, de recommandé. Parmi les bid'a, salat al-tarawih. Tarawih, c'est une bid'a. Rasulullah ne l'a pas institué. Il a prié puis seul. Et lorsqu'il a vu les musulmans qui commençaient à affluer, il s'est retiré après. Parce qu'il leur a dit, j'avais peur qu'elle ne vous soit prescrite et vous ne pouvez pas l'assumer. Alors après Rasulullah, après sa mort, les musulmans se retiraient dans la mosquée individuellement. Chacun à côté, seul. Celui qui apprenait le Coran, il lisait le Coran. Celui qui n'apprenait pas, il lisait que peu. Sayyidina Omar a consulté les compagnons, leur a dit, qu'est-ce que vous pensez si je réunis tout le monde derrière un imam? Ils ont trouvé ça une bonne idée. Elle va avec, est-ce qu'elle va à l'encontre de la sunna? Oui, si, entre guillemets, puisque le prophète ne l'a pas instituée, si on comprend comme ça. Mais est-ce qu'elle va à l'encontre de la sunna? Non. Toute chose qui rassemble les musulmans, c'est conforme à la sunna. Et il a consulté les compagnons, ils ont donné leur aval, ijma, consensus des compagnons, et il les a réunis tous derrière Sayyidina Oussama, le mémorisateur. La lecture du Coran, qui remonte à l'imam Nafa. D'après, la lecture de Warish et de Qaloun, qui remonte à l'imam Nafa, d'après le compagnon de Rasulullah sallam. Non, pas Abdullah ibn Mas'ud, ça reviendra. Non? Notre lecture, elle remonte jusqu'à le compagnon de la Sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à. Non, c'est pas assez nazé. Je vais revenir à ça, Inch'Allah, je reviendrai. Donc, il les a réunis et il est sorti un jour, il a trouvé les musulmans tous alignés derrière un seul imam. L'alignement, les rangs serrés, une image belle à voir. Il a dit, radiallahu anhu, ni'matul bid'atu hadihi. Quelle belle bid'a celle-là. C'est dans le Mouta de l'imam Malik que c'est rapporté. Sahih. Mais il a dit, mais la prière que vous négligez est meilleure. Il parle de ta salat et ta tahajjud. Vaut mieux que vous vous réveillez aussi à 3 heures du matin, 4 heures, là, c'est encore mieux. D'où le fait que si vous, vous décidez entre groupes de sœurs ou de frères de vous réunir au lieu de papoter et de faire le namima, la délation et la zizanie entre les musulmans, dites on va faire 4 rak'at ensemble. Est-ce que c'est une bonne bid'a? C'est bien sûr que c'est une bonne bid'a. C'est une bonne bid'a. Où est le problème? Elle est conforme. Est-ce que vous avez innové dans l'islam? Non. Est-ce que vous avez inventé la structure de la prière? Non. Vous avez modifié la prière de la sallallahu alayhi wa sallam? Non. Vous avez inventé un nouveau Coran? Non. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez dit on se réunit autour de la prière. C'est une bonne bid'a. Elle est recommandée. Il n'y a pas d'interdit à ça. Comme apporte un texte qui l'interdit. Il n'y a pas. Maintenant, moi, je vais aller plus loin dans l'analyse juridique. Le débat, il va plus loin. Comme j'ai dit, ce n'est pas le lieu. On n'a pas assez de temps pour qu'on parle de tout ça, on s'étale. Il y a un débat entre les savants musulmans contemporains et les exhortats, les do'ats, les prédicateurs. Toute chose que le prophète n'a pas faite, est-ce qu'elle a le statut de l'interdiction ou de la permission? On appelle ça, dans le usul fiqh, mas'alat tark. Ce que le prophète n'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a le statut de l'interdiction ou de la permission? Il y a un débat entre les savants musulmans. Certains disent le prophète n'a pas fait, c'est interdit. Et vous avez des savants musulmans des premières générations jusqu'à nos jours, des Ossoli, qui disent At-Tarku, le délaissement, a le statut de la permission. Il n'y a pas d'unanimité à interdire. Et moi, c'est ça ce que je veux que vous appreniez. Vous apprenez ce que disent les vrais érudits dans les débats de Ossol sur les questions, parce que l'Ossol, c'est les fondements du droit. Et ne pas uniquement aller vers la décision juridique, le droit, qui dit ceci. Lorsque vous allez vers le droit, vous allez avoir un champ de compréhension plus étendu, ce que les savants musulmans disent. C'est très important. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner un savoir, mais on va gagner moins de conflits entre dans la communauté, qui est en train de nous tuer, de nous diviser. Et c'est quelque chose de fondamental, qu'il y ait moins de conflits dans la communauté. C'est fondamental, et moi je dirais plus loin, je dirais c'est vital. Pour notre communauté, qu'elle cesse d'avoir des conflits là où il y a divergence entre les vrais savants musulmans, depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours. Mais si nous allons cultiver la culture du conflit, nous sommes tous perdants. Tous perdants. Maintenant, supposons que votre avis il est l'avis le plus correct de l'islam. Alors, maîtrisez-vous et ayez de la patience pour travailler vos frères et sœurs et les réformer. Vous savez, réformer, c'est le travail le plus difficile. Classer, catégorier et rejeter l'autre, c'est la chose la plus facile à faire. Je peux vous classer et vous rejeter. Mais vous réformer, ça nécessite de ma part de la passion, de l'endurance et de la méthode et beaucoup d'amour. Parce que vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur et je veux vous indiquer le chemin de la vérité. Rasulallah sallam, est-ce qu'il lui était aisé d'invoquer Dieu contre Quraysh? Il lui était aisé d'invoquer Dieu contre tous ceux qui l'ont fait souffrir, ses compagnons. Mais parce que c'était un da'i, parce que c'était un prédicateur. Et le da'i qui n'a pas de patience, qui n'a pas un cœur comme ça, pour accueillir l'égaré, il ne mérite pas d'être un da'i. Lorsqu'il s'agit de divergences, et accepter l'autre. Lorsqu'il ne s'agit pas de divergences, patientez avec l'autre pour lui indiquer le chemin de la vérité. Islah. Et lorsque vous faites le travail de islah, vous le faites selon vos possibilités. In uridu illa al-islaha mastata'at. Je ne veux que vous réformer tant que je peux. Dieu ne m'a pas demandé de vous combattre. Ana uridu al-islaha mastata'at. Et puis, à la fin, la règle qui s'applique, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Surtout comme communauté. Surtout comme communauté, j'insiste. Si on veut qu'il y ait vraie communauté. Soit on s'accepte lorsqu'il y a des divergences, soit on patiente lorsqu'il n'y a pas de divergences et on veut réformer l'autre. Est-ce qu'il y a une troisième solution? Rejeter l'autre? Alors c'est nous tous qu'on a la perte. À quoi ça sert que je me retrouve seul? C'est ça le travail. Et moi, j'ai choisi la voie de la réforme et de la patience. Je suis contre la voie du rejet de l'autre. Je n'accepte personnellement, je trouve que ce n'est pas la voie de Rasulallah, ni des vrais do'at. Patientez avec l'autre. Acceptez l'autre dans sa divergence, tant qu'elle est justifiée. Si elle n'est pas justifiée, patientez tout en lui indiquant le chemin de la vérité. Parce que vous avez la responsabilité d'établir. Ballagha. Et nous ridou illa l'islaha mastata'at. Donc voilà, donc j'ai essayé vraiment d'une manière très condensée à vous expliquer un peu ce qu'est la sunna, ce qu'est la bid'a, ses définitions, les différents avis la concernant. Je vais, Inch'Allah, conclure en vous cédant la parole. Et dans les questions-réponses, Inch'Allah, et l'interaction entre nous, j'aborderai la question du Mawlid al-Nabawi, de cette commémoration de la naissance de Rasoul Sallam, et qu'est-ce qui s'est dit sur cet événement. Wallahu a'lam. Si j'ai dit vérité, c'est de la part de Dieu et par sa guidance. Et si j'ai fait des erreurs, c'est de mon propre chef. Sallallahu alayhi wa sallam wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.